tout avait commencé dans le calme.
Soupçonné d'avoir reçu des pots de vin, toujours au Proche-Orient.
Pas de moyen pour répliquer.
Eux, ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on n'a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
On
l'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède? Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
D'afficher la poubelle.
Hola, bienvenue à tous et à toutes. Vous êtes à l'écoute de ce Canu Info du jeudi 15 décembre. Je suis accompagnée, comme tous les jeudis, de Laurent. Vas-tu bien?
Oh ben oui, je vais bien, comme un jeudi sous la pluie.
Comme un jeudi sous la pluie. Non, parce qu'il y a les mardis sous la neige, tout ça, tout ça. Donc, nous allons parler de plein de choses ce soir, il me semble. De quoi allons-nous parler, dis-moi?
C'est moi qui dois faire un peu de ce qu'on va... Je crois que tu vas parler de l'extrême droite, on va parler des journalistes, on va parler des pays un peu totalitaires, du style Iran, Russie, Turquie, et puis d'autres moins totalitaires quand même, la Pologne, le Pérou, le Royaume-Uni. On parlera flicaille, on parlera peut-être santé, enfin voilà, on a pas mal de sujets.
Un peu trop peut-être, je pense.
Oui, on fera pas tout, on fera pas tout, et on commence par l'extrême droite.
Oui, juste effectivement, pour marquer cette émission, et ce qui s'est un petit peu passé ces derniers jours, on a donc par exemple la librairie Publico qui a vu sa devanture marquée par des croix gammées et des morts aux zanards. C'est sympa, hein, et ça évidemment, c'est l'extrême droite qui s'est appliquée à s'attaquer à un lieu évidemment historiquement antifasciste. On a appris aussi que l'une des personnes qui avait pris la parole lors de cette manifestation interdite le 8 décembre allait comparaître devant le tribunal correctionnel le 21 mars prochain en 2023. Donc, et puis on a appris que partout un peu en France, lors donc de cette soirée d'après match Coupe du Monde, un certain nombre de personnes de l'extrême droite avaient été interpellés, mais surtout que ces personnes avaient commis des expéditions dites punitives, mais ce que nous on appellera des ratonnades. Soyons clairs sur les mots, il y a longtemps qu'on n'avait pas vu ça à si grande échelle, partout sur le territoire de cette France que ces gens apprécient tellement. On a pu voir évidemment ici à Lyon des groupes armés, bastonnés, des gens, et évidemment c'était mieux si jamais c'était des gens qui semblaient soutenir l'équipe du Maroc. Donc voilà, le racisme est bien présent, le fascisme qui accompagne ce racisme, lui, est bien présent aussi. Au conseil de la métropole de Lyon, il y a eu un vote cette semaine, ça c'est un vœu, c'est comme ça que ça s'appelle, qui réclame la fermeture définitive des locaux de l'extrême droite, comme la Traboule, l'Apogée dans le Vieux-Lyon par exemple. Alors il faut savoir qu'il y a 108 élus qui ont voté en faveur de ce vœu pour la fermeture de ces établissements. Il y avait 20 absents, et puis il y a surtout les 22 élus du groupe La Métro Positive, un groupe donc qui se dit société civile de centre et de droite. Je leur laisse cette appellation bien évidemment, qui ont refusé de voter. Donc c'est plutôt un vote en faveur hein, de cette fermeture, mais on note quand même que c'est pas du tout à l'unanimité comme on a pu le lire dans certains endroits, puisque bah, certains et certaines ne sont pas venus et puis les autres y sont carrément opposés, avec toujours cette idée que quand même c'est pas bien de distinguer les actes de violence. Parce que vous savez, il y a toujours cette idée que la droite et l'extrême gauche, c'est la même chose. On en a marre de répéter que non. Hein. Il y en a d'un côté, il y a la haine, et de l'autre côté, il y a la lutte. Mais évidemment, ces droitards aiment bien mettre tout le monde dans le même camp. Ça semble être tellement facile hein, pour justifier en fait ce qui n'est pas justifiable, c'est-à-dire des ratonnades, des attaques racistes et des attaques fascistes, que ça soit à Lyon ou ailleurs. On a pu voir des images à Nice, à Paris. Voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est d'apprendre finalement par la police que, par exemple, à Paris, il y a eu 47 personnes dites de l'ultra-droite, dont on continue à appeler ça de l'extrême droite.
Hein,
qui ont été arrêtés et 14 sont fichés S. C'est-à-dire que quand CNews nous fait des soirées entières dédiées à la haine et au racisme, tout ça sur fond d'une base fasciste hein, quand même, pour dénoncer les Arabes, les étrangers, les Roms, enfin je vous passe, hein, vous choisissez des pays du moment que ça semble noter le racisme de CNews et de Monsieur Bolloré, tous ceux qui sont pas chrétiens, vous hein, voyez un peu aussi. Des fois c'est un peu curieux hein, leur discours. On aimerait bien savoir ce qu'ils pensent du coup de ces 14 personnes de l'ultra-droite, hein, donc de l'extrême-droite, qui sont fichées S, donc c'est-à-dire qui sont suivies aujourd'hui hein, par les services de l'État. Voilà, bon, c'était juste pour dire ça, mais en même temps, j'ai appris que... heureusement qu'il y a des syndicats, quand même, excusez-moi, de travailleurs et de travailleuses. On a appris que M. Wauquiez voulait changer l'adresse du Conseil régional, vous n'avez pas pris ça ?
Ouais, parce que c'était place François Mitterrand, c'est ça ?
Ah, c'est Esplanade, François Mitterrand, l'adresse.
Voilà. Et ça lui plaît pas, Mitterrand ?
Non, du coup, il veut que ce soit Cour Charlemagne, puisqu'en plus, bon, Charlemagne, ça semble aller mieux, mais il paraît que c'est pragmatique, c'est pas idéologique.
Oui,
avec
on
Monsieur
le Wauquiez,
le pragmatisme, on voit bien. Voilà, en tout cas, on vous rappelle que samedi 14h30, il y a une manifestation contre la loi immigration tellement soutenue et vantée par Monsieur Darmanin, mais aussi hein, par le reste du gouvernement, hein, le gouvernement de Madame Borne, bien évidemment, et tout ça saoule la... Le maintien évidemment de M. Macron en haut là, hein, tout ça. Voilà, et puis je ferai une remarque personnelle, je t'ai pas parlé, mais si t'es pas d'accord, tu auras le droit. Rebellion a fait effectivement le site, hein, si vous connaissez pas bien, vous tapez rebellion
avec
les lions.info. Fait un petit papier évidemment sur ces violences de l'extrême droite à Lyon, avec deux tweets, dont l'un qui reprend un tweet de La Galle, qui nous dit donc que comme nombre de Lyonnais, elles étaient en train de regarder ce match. C'est bien d'être antifasciste, mais ça serait bien d'être universaliste aussi et de se souvenir que cette Coupe du Monde, c'est un scandale, comme celle d'avant, comme d'autres JO, mais que celle-ci, franchement, elle pue, et donc, c'est bien d'être antifasciste, mais il faut aller jusqu'au bout de sa démarche, éteindre sa télé et éviter de regarder des matchs qui, rappelons-le, amènent à un patriotisme exacerbé.
Ouais.
Et que la joie du sport, ça suffit pas, surtout pour cette Coupe du Monde, ou même sans patriotisme, elle pue. Cette
voilà, du coup, La Galle soutient la Coupe du Monde. C'est moche, hein, quand même.
Bah, en tout cas, il la regarde. Alors après, ça, voilà, c'est juste que du coup, on peut s'éviter, quand on est une organisation antifasciste, ce genre de remarques et critiquer pour autant, parce que ce que tu fais individuellement n'est pas ce que fait ton organisation.
Alors on va parler des journalistes maintenant. Il y a des liens avec l'extrême droite aussi, bien évidemment, puisque comme d'habitude, hein, mi-décembre, RSF, Reporters sans frontières, balance son top là. Enfin, son bilan, quoi. Enfin, le truc qui fait pleurer, parce que ça donne l'état de la presse et surtout des journalistes. Et comme d'habitude, c'est pas glorieux du tout. Donc, on a un nouveau record hein, qui avait été établi l'an dernier, mais qui a été battu. Et c'est des records qu'on aimerait ne jamais voir battre. Donc, 533 journalistes au 1er décembre étaient incarcérés dans le monde pour avoir exercé leur métier. Donc 13,4% de plus que l'année dernière. C'est quand même pas super la classe. Ils ont noté que cette année, le score qui avait le plus progressé, si on peut dire, ce sont les femmes journalistes qui sont encore plus emprisonnées, voilà, puisqu'elles sont actuellement 78 derrière les barreaux, augmentation de 30% par rapport à l'année dernière. Hein, pas mal. Aujourd'hui, les femmes journalistes représentent donc 15% des détenus. Donc il y a 5 ans, elles étaient moitié moins, un peu moins de moitié moins, c'était 7%. Alors bien évidemment, dans les pays qui font du score, on parle de la Chine, hein, où la censure et la surveillance ont atteint des niveaux jamais atteints quasiment dans des sociétés, dans des États, grâce à la technologie notamment. Alors ça reste la plus grande prison de journalistes, hein. 110 journalistes sont dans les geôles chinoises actuellement. On pense à la journaliste indépendante Wang Zuekin, qui travaillait sur la corruption, la pollution, et puis le harcèlement des femmes. Donc elle a le droit à la tôle. On pense à l'Iran, hein, et la dictature religieuse qui emprisonne à tour de bras 47 détenus. Donc c'est la troisième plus grande prison du monde pour les journalistes. Alors faut dire que la rébellion, la révolution, tout ce qui se passe suite à la mort de Mahsa Amini, cette jeune kurde iranienne tuée par la police religieuse, ça a entraîné l'État dans une envie très forte de répression, et notamment, alors contre tout le monde pour le coup, mais aussi contre les journalistes. Alors là, c'est ceux qui sont en tôle, on va parler de ceux qui sont morts. 57 journalistes ont perdu leur vie en voulant informer les autres en 2022. Donc c'est 18,8% de plus que l'année dernière. Il y avait eu 2 ans d'accalmie, et puis là c'est reparti à la hausse très fortement. Alors bien évidemment, l'attaque des Russes en Ukraine est en partie responsable de cette augmentation. 8 journalistes ont été tués dans les 6 premiers mois de guerre. On se rappelle du photoreporter ukrainien Max Levin, qui a été froidement exécuté le 13 mars par des soldats russes. On pense aux journalistes de BFM TV, qui a été tué par un éclat d'obus russe pendant qu'il couvrait une opération d'évacuation de civils. Donc là, forcément, ça cartonne, c'est la guerre, et forcément, les journalistes sont aussi victimes. Alors, dans les pays où il n'y a pas la guerre, ça tue aussi pas mal. Le Mexique, c'est le record, 11 journalistes assassinés. C'est pas mal quand même pour un pays qui est pas en guerre. Près de 20% du nombre des professionnels de l'information qui sont morts au Mexique. C'est un triste chiffre. Alors si on regarde en fait tout le continent américain, c'est le premier endroit où les journalistes meurent quand il n'y a pas de guerre. Alors on pense à Haïti, 6 tués, le Brésil, 3 tués. Donc voilà, il y a pas mal de choses. Des journalistes qui enquêtent, alors on pense au Brésil par exemple, où un journaliste anglais enquêtait sur ce qui se passait dans la forêt amazonienne, la déforestation, tout ça. Je sais que zigouillé. Voilà, les chiffres sont très importants. Ensuite, catégorie suivante, les journalistes qui sont emprisonnés. Donc là, il y a 65 journalistes qui sont enlevés, en fait, qui sont détenus, qui sont otages. Pas emprisonnés par les États, mais par des groupes souvent terroristes. Il y a le français Olivier Dubois, dont on parle assez régulièrement dans les gros médias, dans les médias dominants. Donc lui, ça fait 20 mois qu'il est aux mains du groupe religieux qui s'appelle le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, qui est affilié à Al-Qaïda au Mali. On pense à l'Américain Austin Tice, qui a été enlevé en Syrie il y a 10 ans. On n'a pas de nouvelles non plus, enfin, il est toujours otage. Et puis il y a des journalistes qui sont juste portés disparus, on ne sait pas où ils sont. Ils sont entre l'otage et le mort et la prison, c'est pas officiel. Il y en a au moins 49 qui ont disparu cette année. Enfin voilà, le chiffre est catastrophique comme d'habitude. Il y a des choses qui se passent. Alors on pourrait parler aussi de Ivan Sofronov, un grand journaliste d'investigation russe qui a pris 22 ans de tôle parce qu'il avait parlé de choses dont il ne devait pas parler. Pourtant c'était des choses qui avaient déjà été révélées sur Internet, mais ils ont voulu marquer le coup parce que lui, il enquêtait trop. Donc voilà, puisque la Russie est en phase de progression, hein, de limitation de la liberté d'informer. Enfin voilà, grosso modo, c'est pas très glorieux.
Alors, on va parler de l'Iran, qui n'est pas un pays où la liberté de la presse est vraiment présente, hein, n'est-ce pas, comme tu viens de le dire. Donc on a appris que les autorités iraniennes ont condamné à 28 ans de prison Olivier Vandecastal. Olivier Vandecastal, c'est un humanitaire belge qui avait été arrêté le 24 février dernier à Téhéran. Sa famille rappelle que personne ne connaît les charges. Donc on ne sait pas pourquoi il a été condamné à 28 ans de prison. Certainement pour un truc moche du style rébellion, atteinte à la... rébellion, c'est chez nous. Mais vous savez, souvent, c'est soit des agents de l'extérieur, soit ils ont voulu déstabiliser l'État iranien, tout seul en général, hein, c'est les étrangers. En tout cas, Olivier Vandecastal, il se retrouve dans une situation compliquée parce que sa famille espérait qu'il puisse... profiter d'un accord entre la Belgique et l'Iran. Il s'agissait d'un traité de transfèrement qui avait été signé en mars dernier entre donc les deux pays. Ce traité de transfèrement aurait pu permettre à Olivier Van de Castel de ne pas faire sa peine en Iran, mais de la faire en Belgique. Hein, c'est le principe de ces accords entre pays. Le truc, c'est que ce traité a été suspendu depuis les événements en Iran et donc les manifestations, en particulier des femmes, et pour la liberté. Ce qui fait que sa famille attend un petit peu de savoir s'il va y avoir des évolutions. Mais il faut dire qu'il y a des gens qui sont des exilés iraniens et iraniennes qui, en Belgique, ont tout fait pour détruire ce texte avec des choses qui s'entendent, puisque en Belgique il y a un condamné, il s'agit d'un diplomate iranien qui s'appelle Assadollah Assadi, qui est condamné en Belgique en 2021 à 20 ans de prison pour un projet d'attentat terroriste contre l'opposition iranienne, et ce traité aurait pu permettre à cet homme de faire sa peine en Iran et donc d'être rapatrié et peut-être être libéré par les autorités iraniennes. Donc c'est très compliqué, hein, ces accords internationaux, surtout quand il y a la vie de personnes en jeu, et d'autant plus de ce belge humanitaire Olivier Van de Castel. Et puis on a appris que le Conseil économique et social des Nations Unies a voté hier mercredi l'expulsion, je cite, immédiate de l'Iran de la Commission des conditions de la femme.
Bah, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ils y étaient. Hein.
C'est alors, ils y étaient depuis avril dernier. Oh, bah, y en a d'autres dans cette commission, oui. L'Arabie Saoudite. Alors évidemment, ça a donné cette décision, l'occasion à l'Iran et à ses chefs de faire de l'anti-américanisme primaire, puisque c'est évidemment les États-Unis d'Amérique qui ont poussé, avec l'accord de Monsieur Biden, le président des États-Unis d'Amérique, de pousser donc cette expulsion donc de cette commission des autorités iraniennes. Ça a donné, oui, à l'Iran tout un tas de jolies phrases qu'on pourrait parfois être imaginer être sorti d'un communiqué nord-coréen, parce que quand Monsieur Nasser Kanani, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, dit que tout cela permet d'ignorer la procédure électorale dans les institutions internationales, parler de procédure électorale nous fait un petit peu marrer. Alors, il faut savoir qu'il a fallu très simplement une majorité simple pour exclure le groupe iranien de cette commission. Il y a 29 membres qui ont voté pour, 8 pays dont la Russie et la Chine, hein, ça vous étonnera peut-être pas trop, qui ont voté contre donc cette expulsion de l'Iran, puis il y a 16 pays qui se sont abstenus. En tout cas, cette décision explique que, je cite, hein, les autorités iraniennes, je cite, ouvrent les guillemets, sapent continuellement et répriment de plus en plus les droits humains des femmes et des filles, y compris le droit à la liberté d'expression et d'opinion, souvent en recourant à une force excessive. Et donc c'est une partie de ce texte qu'ont voté donc les membres de ce Conseil économique et social des Nations Unies. Voilà, l'Iran expulsé, écoutez, ça paraît pas complètement stupide. On va revenir sur le Pérou, dont je vous ai parlé la semaine dernière, parce que il y a eu très rapidement des rebondissements, c'est-à-dire que, je vous rappelle, hein, Monsieur Castillo, président, jusqu'à la semaine dernière, avait ordonné une dissolution du Parlement. Il a réussi à mettre une opposition unie contre lui. Il a donc été destitué pour incapacité morale. Il avait tenté de se barrer au Mexique, je vous avais raconté ça, et il a été arrêté. Depuis, s'il y avait eu des rassemblements tout de suite, plutôt calmes, tout de suite, c'est parti en cacahuète. Il y a des manifestations qui se sont donc mises en branle très rapidement en soutien à Monsieur Castillo. Le ministère de la Défense a décrété l'état d'urgence sur tout le territoire, hein, hier, pour une durée de 30 jours. Il faut dire que lundi déjà, le gouvernement a donc, je vous rappelle que c'est l'ex-vice-présidente de Monsieur Castillo qui a pris la suite, hein, de Monsieur Castillo. Elle est du même parti que lui. Donc il y a ce gouvernement qui a déclaré l'état d'urgence lundi d'abord pour 60 jours dans cette province du sud Pérou. Ce même gouvernement avait révoqué tous les préfets nommés par le gouvernement de Pedro Castillo. Donc on peut dire que là, il y a quand même un peu des institutions qui sont mises à mal, hein, par cette destitution, qui du coup, il y a des rebondissements et des répercussions. On a pu lire donc dans le communiqué du ministre de la Défense, Monsieur Alberto Autorala hier mercredi qu'il fallait une réponse énergique avec autorité. Donc là, c'est une mesure qui suspend la liberté de circuler et de réunion. Et il pourrait y avoir un couvre-feu qui se met en place hein, dans les heures et les jours qui viennent. Alors là, c'est donc la police avec le soutien de l'armée qui a le contrôle de tout le territoire. C'est ce qui a expliqué donc Monsieur Alberto Autorala hier. Et on peut dire qu'il y a une répression extrêmement violente, puisque depuis dimanche, il y a 7 personnes qui sont mortes. Il y a plus de 200 blessés, donc on a quelque chose d'un seul coup qui s'emballe dans le pays. Alors, c'est pas la première fois, hein. C'est pas une histoire de surprise, c'est juste une histoire que 7 morts, c'est qu'il y a une répression terrible. Il y a des manifestations, effectivement, qui se sont largement mis en place, qui se sont intensifiées. C'est-à-dire que là où on est parti de petits rassemblements, une petite mobilisation, eh ben, il y a quelque chose d'extrêmement important et violent qui s'est mis en place. Donc, madame Dina Boluarte, dont je vous ai parlé, hein, cette présidente qui a pris la place de monsieur Castillo, Je vous le disais la semaine dernière hein, qu'on pensait qu'elle ferait pas son mandat, a tout de suite annoncé pour tenter de calmer la foule qu'elle irait pas au bout de son mandat et qu'elle voulait faire accélérer de nouvelles élections. Mais elle explique que légalement parlant, elle peut pas faire en sorte que ça soit avant la fin 2023. Normalement, elle aurait pu peut-être aller à 2024. Là, elle dit que en tassant un petit peu hein, la constitution, les lois et tout ça, elle pourrait peut-être faire ça décembre 2023. Mais pour l'instant, ça sert pas à calmer hein, les ceux et celles qui sont derrière monsieur Castillo. Il faut dire que monsieur Castillo, il a ce côté connu maintenant de certains représentants politiques d'aiguillonner un peu sa base puisqu'il a il peut toujours tweeter, donc il raconte des choses. Et puis il est passé en audience parce que je vous avais dit hein, qu'il avait d'abord 15 jours de garde à vue, puis on peut dire ça comme ça. Il était arrêté et donc il avait demandé à être libéré. Puis surtout, il a lancé une procédure pour contrer cette destitution. Ça n'a pas marché. Et puis là, il avait demandé sa défense a demandé à avoir plus de temps pour pouvoir se préparer. Donc là, il est 48 heures de plus en tôle, mais il est très certain qu'il ait une détention préventive des 18 mois qui soit accordé, c'est-à-dire c'est une demande qui a été faite par le parquet, puisque je vous rappelle, il est accusé d'un certain nombre de choses. D'abord d'avoir voulu dissoudre le Parlement, d'avoir violé la Constitution, et puis d'une histoire de corruption derrière lui et sa famille et certains de ses proches. Donc il a expliqué qu'il ne renoncerait jamais, qu'il y avait de l'outrage, de l'humiliation, des mauvais traitements. Peut-être, très certainement d'ailleurs, hein, parce que je veux bien croire qu'ils s'en prennent un peu plein la gueule. Mais toujours est-il que voilà, il aiguillonne aussi une partie des Péruviens, des Péruviennes, et ça crée quand même une dissension une nouvelle fois dans le pays. Voilà, je pense que du côté du gouvernement et de cette nouvelle présidente, on sort l'armée quand même, c'est jamais très bon non plus pour la démocratie.
On change de pays, on va du côté de la Russie, magnifique pays, ainsi apprécié de certains élus. On pense à Mélenchon, Marine Le Pen, Zemmour ou Éric Ciotti.
Voilà, qui depuis voilà. qu'il a eu.
Ah, mais alors du coup, je vais lire ce
la
que.
La tête, c'est, voilà. c'est très drôle.
Donc,
lui. On rigole beaucoup avec
Ciotti. Élu à la tête de LR dimanche dernier, et le Canard Enchaîné a sorti les propos qu'il pouvait tenir. Il y a pas très longtemps, il y a à peu près un an, donc fin 2021, il disait, je demande que la France se retire du commandement intégré de l'OTAN. Notre ennemi n'est pas la Russie. La guerre froide n'a plus lieu d'être. Nous devons retrouver des liens forts avec la Russie, avec qui nous partageons des racines chrétiennes et une histoire. Et le même jour, il avait dit « Nous devons avoir des partenariats nouveaux avec la Russie. La Russie a combattu l'islamisme, notamment au Moyen-Orient. » Bon, quand on connaît ce que fait la Russie, le dictateur Poutine, ce qu'il a fait en Tchétchénie, hein, où il a installé Ramzan Kadyrov, qui est une sorte de dictateur islamique mais Moscou compatible. Ciotti, c'était pas le seul, hein. Les autres, ceux que j'ai cités avant, ils avaient tous des accointances, des affinités avec l'autoritarisme de Poutine. Et aujourd'hui, ils ont tous l'air ridicules. Donc voilà, c'était juste à signaler. Et du coup, dans les projets de loi, il y a des nouveaux projets de loi quasiment toutes les semaines hein, en Russie, avec enrichis d'amendements qui sont encore plus guerriers, encore plus répressifs, encore plus martiaux. Notamment, c'est le cas hier et avant-hier à la Douma, vous savez, le Parlement russe. Donc il y a eu des nouvelles lois. Alors il y a une première chose qui porte sur un truc qui s'appelle le statut du ruban de Saint-Georges. Alors c'est un insigne noir à rayures orange qui date de l'époque impériale, mais qui avait été récupéré par les soviétiques. Donc il était porté notamment à l'époque soviétique pour célébrer la victoire sur l'Allemagne nazie. Aujourd'hui ça symbolise cette médaille, plutôt l'impérialisme russe actuel, c'est-à-dire l'annexion de la Crimée, le soutien aux séparatistes du Donbass, l'adhésion sans faille à ce que Poutine appelle l'opération militaire spéciale en Ukraine. Voilà. Alors, des nouvelles lois pour protéger ce ruban de Saint-Georges, et notamment ceux qui l'offenseraient, puisqu'aujourd'hui, si vous offensez ce truc-là, ce symbole, cette médaille, vous risquez une forte amende, une peine de prison jusqu'à 5 ans, juste pour une médaille. Hein, vous imaginez le truc, ça va loin les Russes. Alors, et ils ont aussi adopté, les députés qui sont à la botte de Poutine, on n'a plus du tout de démocratie en fait, hein, depuis un petit moment déjà, une série d'amendements qui durcissent les peines qui existaient déjà, notamment ce qu'ils appellent pour sabotage et diversion, donc la résistance, grosso modo. Désormais, ces activités pourront être sanctionnées par la peine maximale qui est possible en Russie, c'est-à-dire la prison à vie, puisqu'ils n'ont pas la peine de mort. Et la peine minimale pour ce genre de crime est maintenant fixée à 10 ans de prison. Donc c'est plutôt pas mal. On durcit un petit peu les choses. Les initiateurs du texte ont bien sûr, ils ne l'ont pas caché, hein, dit que c'était en lien avec la guerre en Ukraine. Parce que voilà, il faut soutenir son pays, tout ça, tous ces trucs-là. Bon, bref, c'était juste ridicule leurs arguments, bien évidemment. Et alors, ils sont allés encore plus loin, puisqu'ils ont voté. Alors, ils ont adopté un projet de loi qui amnistie les futurs crimes qui seraient perpétrés donc dans les territoires ukrainiens occupés, c'est-à-dire occupés ou officiellement à eux, enfin qui voudraient à eux. Donc là, on pense à la Crimée, hein, mais il y a les régions séparatistes, hein, du Donbass, de Donetsk et de Louhansk. Donc voilà. Alors le truc, c'est que ça dit, maintenant, si vous avez commis un crime, alors grosso modo, ça dit, je vais vous lire la phrase traduite du russe, n'est pas considéré comme criminel tout acte puni par le code pénal russe, mais commis pour la défense des intérêts de la Fédération de Russie. C'est quand même pas mal du coup. Alors il y a pas mal de journalistes qui sont indépendants mais qui sont plus en Russie du coup, ou d'avocats, de juristes qui sont en partie encore en Russie, qui disent là c'est ça tacle tout, ça casse tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui un militaire russe peut tout faire, puisque tous les crimes condamnés par le code pénal seront amnistiés. Donc ça va, ils peuvent torturer, violer, commettre un génocide. Si c'est pour défendre les intérêts de la Russie, c'est autorisé depuis hier dans ce vote à la Douma. Ça va pas dans le bon sens quand même.
Alors un pays... Je me dis que M. Darmanin, il a deux vies, vous savez, en fait plusieurs peut-être, qui donne des consignes aussi à la Pologne, parce que c'est bien une idée qu'il pourrait mettre en place, je pense. Ça ne doit pas le choquer, lui. Nous, ça nous choque. La Pologne, il y a donc des grandes idées, des fois en tout cas son Parlement, puisque le Parlement polonais mardi a voté un truc absolument magnifique et formidable, parce que du coup, les êtres humains, ils ont besoin de ce genre de loi. Excusez-moi, ça m'émeut beaucoup. Donc, maintenant, les réfugiés ukrainiens vont devoir payer pour avoir une place en centre d'hébergement. Ça sera à partir du mois de mars 2023. Donc, on leur souhaite à tous et à toutes bien du courage d'ici là. Alors, évidemment, la Pologne a vu passer 1 million de réfugiés depuis le début de la guerre, hein, sur son territoire. Là, pour l'instant, il y a 81 000 Ukrainiens et Ukrainiennes en Pologne qui ont encore besoin de cette aide humanitaire et de trouver une place dans ces centres d'hébergement. Maintenant, un réfugié ou une réfugiée qui sera restée plus de 4 mois dans un centre d'hébergement va devoir payer 10 balles. Par jour, hein, pour un lit de camp. Vous voyez les gymnases, vous voyez les lits de camp, voilà, c'est ça l'idée. C'est vachement chouette pour l'humanité. Là, je pense qu'on en sort vraiment grandi. Évidemment, du côté des associations d'aide humanitaire, de soutien aux réfugiés, d'accompagnement, on se dit que ce qui risque surtout de se passer, c'est de finir de mettre des gens à la rue complètement, puisque tout le monde ne peut pas trouver du travail. Là, l'idée, c'est ça. Il paraît que ça va accélérer le processus d'intégration.
Ouais.
Bon, l'intégration, elle risque de se finir dans la rue. C'est comme ça que ça va se passer. Ou simplement, en fait, ce que espèrent certainement les députés polonais, c'est que ben, ces Ukrainiens et ces Ukrainiennes se barrent de Pologne et aillent chercher ailleurs une vie un peu meilleure. Voilà, c'était une idée à la Norman, hein, je trouve.
Ouais. Peut-être la Pologne accueille beaucoup d'Ukrainiens, hein, puisqu'ils sont juste à côté, forcément.
Oui, mais enfin, elle pourrait demander de l'aide à l'Union Européenne à la place.
Ouais, mais ça ne serait pas pareil.
Ah bah ouais. La Turquie. Ouf, la Turquie, hein, parce que du coup, la répression sur les opposants et les opposantes à M. Erdogan, bah, elle se poursuit en fait. Alors, évidemment, elle se poursuit dans le sens où il y a beaucoup de gens qui sont en prison, ou en sont sortis, sont obligés de fermer leur gueule, ont été réprimés. Donc, évidemment, la répression, elle s'était à un moment un petit peu calmée. Et puis surtout, on a une opposition qui reprenait un peu de la force aussi, parce qu'il y a des élections qui approchent, parce que M. Erdogan, il est plus si puissant. Il faut dire que là, il y a une inflation à plus de 84%, je crois. Un truc de absolument délirant. Hein. Donc, il se retrouve aussi avec une nouvelle opposition, et alors pas forcément celle de la gauche ou de l'extrême gauche, mais en tout cas, il pourrait tanguer M. Erdogan. En tout cas, mercredi, hier, le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, a été condamné à plus de 2 ans de prison pour insulte envers des responsables. L'insulte, c'est idiot, le mot.
Ah ouais, c'est léger un peu quand même. Donc
il a aussi une interdiction d'exercer un mandat politique de la même durée, hein, c'est-à-dire 2 ans et 7 mois de prison, d'inéligibilité, donc 2 ans et 7 mois de prison pour idiot. Donc lui, il fait partie des sociodémocrates, c'est le principal parti hein, d'opposition pour l'instant contre M. Erdogan. En plus, c'est un homme qui a quand même réussi à avoir hein, cette ville. Là, on peut dire quand même qu'il avait fait la nique à M. Erdogan en gagnant hein, cette mairie lors des dernières élections. Donc c'est là où ça prouve aussi qu'il y a des villes qui ne sont pas entièrement dédiées et dévouées à M. Erdogan et à son parti d'extrême droite et religieux. Donc là, il a fait appel. Hein, l'appel, l'intérêt, c'est que c'est suspensif. Donc il va pouvoir continuer à mener son mandat de maire pendant l'examen de l'appel. Par contre, si jamais il perd en appel, ça veut dire que ben, il est privé de ses droits et qu'il ça fait un élu d'opposition de moins. Surtout que c'est un jeune qui pourrait être présent pour la prochaine présidentielle et faire face à M. Erdogan. Mais du côté de l'opposition, on n'a toujours pas réussi à choisir qui il va y aller. Parce que c'est ils ont besoin d'une tête. Hein. En Turquie, il ne va pas falloir que tout le monde y aille. Parce qu'il y a quand même des gens qui aimeraient se débarrasser de M. Erdogan. Mais c'est toujours compliqué, hein, les partis politiques et les élections. Parce que du coup, s'allier avec des gens qu'on n'aime pas, on a bien vu... Hein. Ici, ce que ça donne hein, quand il y a des élections, même avec des gens plus ou moins proches, je dis plus ou moins, c'est quand même pas toujours facile. Mais en tout cas, voilà, pour idiot, en Turquie, quand même, on est jugé, donc ça craint un tout petit peu. Et puis là, cette semaine, il y a quelques jours, M. Erdogan a expliqué qu'il se verrait bien prendre le dernier mandat présidentiel. Hein. Et puis qu'après, il paraît qu'il va laisser la place aux jeunes, je le cite. Ouais.
Un mandat pour la route, quoi, comme ça, là, en passant, allez, donnez-moi encore quelques années.
Oui, il aimerait bien changer la constitution turque, M. Erdogan, ce qui pourrait lui permettre d'aller toujours plus loin.
Bah oui.
Dans la tête du pouvoir, hein, voilà. Mais il n'y a pas très longtemps, vous savez, je sais pas, vous n'avez pas entendu, hein, Monsieur Raffarin, il a donné, on l'oublie, hein, bah, il existe toujours, il a dit que ça serait bien qu'il y ait une possibilité de changer la constitution pour que Monsieur Macron il ait un dernier mandat.
Ouais, et
donc
Raffarin,
même chez nous, ça arrive ce genre de choses. Hein.
Ouais, il a toujours été très fan des régimes un peu autoritaires ou totalitaires, hein, donc c'est pas si surprenant que ça.
Et puis une dernière information à l'international, ça se passe de l'autre côté de la Manche au Royaume-Uni. Il y a quelques temps, il y avait eu un petit scandale sur une manifestation qui s'était déroulée devant le consulat de Chine à Manchester. C'était une manifestation pour la démocratie à Hong Kong. Tout ça avait été merveilleusement filmé, ce qui avait permis à ce scandale de bien émerger dans la société britannique. Ça avait constitué un vrai tollé hein, au sein de la sphère politique et puis auprès des organisations des droits humains. Ça avait créé quelques problèmes diplomatiques entre les deux pays, entre la Chine donc, et le Royaume-Uni. Et là, on a appris donc que 6 diplomates du consulat de Chine de Manchester ont quitté le Royaume-Uni. C'est ce qu'on a appris donc. Dehors, c'était hier. Alors, il s'est passé quoi? Bah, il s'est passé le 16 octobre dernier. Donc, il y a cette manifestation. C'est le jour de l'ouverture du congrès du Parti communiste à Pékin. Il y a des militants et des militantes qui se rassemblent pour la démocratie à Hong Kong, comme je viens de vous le dire, qui souhaitent que le territoire soit libéré. Et il s'est passé un truc de dingue, c'est qu'il y a des gens qui sont sortis du consulat, qui ont chopé des manifestants, et un en particulier qui l'ont traîné jusque sur le territoire donc chinois,
Et
qui l'ont tapé.
Ah bien, mais ils ont le droit, ils sont sur le territoire chinois.
Voilà, donc ça s'était foutu sur la tronche. Il faut dire que d'autres personnes étaient sorties du consulat pour aller casser les banderoles, et donner des petits coups à des manifestants et des manifestantes démocrate, en tout cas, voilà. Donc du coup, ça avait un peu fait du bruit en disant mais c'est scandaleux. Au Royaume-Uni, on a le droit de manifester. C'est un droit et qu'on aimerait bien que ça soit respecté. Du côté de la Chine, on avait dit non, mais c'est eux qui sont rentrés sur notre territoire. C'est pour ça qu'on les a tapés. C'est une excuse qui n'a pas plu du côté de la Grande-Bretagne. La police de Manchester avait demandé la levée de l'humanité l'immunité.
Bon, l'humanité aussi, ils n'en ont pas d'humanité.
Six diplomates chinois, la Chine n'ayant pas répondu à ça, ils sont donc partis. D'accord. Moi, ça me fait rire.
Oui. Voilà. On parle de répression.
Allez, je crois que voilà.
Il n'y en a pas que dans les pays totalitaires, autoritaires. Les démocraties dites libérales sont aussi des systèmes qui peuvent être très répressifs. On va parler d'un article qui est paru dans le journal Politis, qui a fait des demandes au gouvernement pour avoir les chiffres sur les traitements judiciaires des violences policières, donc sur les 5 dernières années, donc de 2016 à 2021. Ils ont insisté et ils ont eu des chiffres, et donc on va avoir ces chiffres, et c'est très intéressant, puisque ça va répondre notamment à la question comment la justice traite les dossiers de violences policières. Alors jusque-là, pas de chiffres disponibles, le bureau des statistiques du ministère de la Justice donnait pas vraiment les informations, et concernant donc les personnes mises en cause dans des violences volontaires par personnes dépositaires de l'autorité publique, donc on parle des policiers, des gendarmes et des policiers municipaux. Alors, premier truc qui est relativement important, l'explosion du nombre de personnes dépositaires de l'autorité publique mises en cause pour violence durant ces 5 dernières années, donc sous le mandat Macron. Elles étaient 534 en 2016, on est passé à 836 en 2021. Une augmentation de 57%. Alors, c'est pas mal. Et l'augmentation la plus forte, en fait, elle est entre 2019 et 2020. Donc là, il y a une vraie augmentation du signalement des violences policières, et parce qu'il est lié à une augmentation des violences policières. Hein, faut être clair là-dessus. En revanche, la tradition très républicaine de protéger les flics et les forces de répression est toujours là. Ainsi, la part des auteurs poursuivis et plus encore condamnés reste ultra faible. En 2021, donc sur ces 836 auteurs, c'est-à-dire policiers, gendarmes, mis en cause, seuls 146 ont fait l'objet de poursuites. Ça veut dire 17,5%. Le nombre de condamnations pour 2021 n'a pas été communiqué. Par contre, pour 2020, le nombre de condamnations parmi les auteurs poursuivis, 19,6%. En gros, il y a un certain nombre de gens qui déclarent des violences policières. Il n'y en a que 17,5% qui sont poursuivis. Et dans ces 17,5%, il n'y en a plus que 19% qui vont aller jusqu'au bout, jusqu'en justice. Bon, grosso modo, seulement 7% des policiers mis en cause dans des violences policières iront jusqu'à la case justice et la case condamnation. Donc ça fait très très peu. Hein. Grosso modo, la République continue de protéger ses forces de répression. Ce qui, dans la logique du système, me direz-vous. Sauf que dans la logique du système, les forces de répression ne sont pas censées tabasser. Mais parce que c'est pas censé être des forces de répression, mais ça l'est. L'évolution de taux de poursuite, grosso modo, reste stable, malgré tout. C'est-à-dire du passage de on déclare une violence policière et ça passe en justice. Alors, autre évolution relativement intéressante et forte, le taux de condamnation des policiers poursuivis a chuté, s'est effondré sous l'ère Macron. En 2016, 59% des policiers poursuivis ont été condamnés. ça revient à 13% des mis en cause, hein, après les différentes épurations, dirons-nous. En 2020, ce taux est passé à 39%. Donc voilà, on baisse beaucoup. C'était ce fameux chiffre des 7%. Voilà. C'est quand même impressionnant, cette baisse. Alors maintenant, on se pose la question, mais comment, après les signalements, comment ils font pour faire que ça aille pas jusqu'en justice? Alors il y a plusieurs leviers. Le premier, c'est le classement sans suite. Alors ils justifient en disant, en général, l'infraction est mal caractérisée. Ça c'est facile. Hop, ça devient une affaire non poursuivable. Donc là, c'est relativement important et ça augmente légèrement tout au long du mandat de Macron. Voilà. Et autre possibilité, c'est que dans ceux qui peuvent être poursuivis, il y en a qui vont être classés non poursuivables parce que c'est inopportun, les poursuites. Deuxième levier. Bon, et à la fin, on a ce chiffre où finalement très peu de flics, enfin de flics, de policiers ou de gendarmes sont poursuivis suite à des violences policières et encore moins condamnés. Alors tous ces chiffres qui sont sortis, que Politis a pu récupérer, c'est important parce que ça montre effectivement que il y a toujours et il y a de plus en plus de violences policières, notamment de violences policières signalées, et que la justice ne suit pas, enfin suit le gouvernement et ne suit pas les citoyens. Et ça participe finalement quelque part à ce que les policiers et les gendarmes se croient tout permis, ce qu'ils peuvent constater, hein, puisqu'il y a très très peu de poursuites. Voilà.
Moi, je voudrais parler d'un mouvement de grève chez Sanofi, à Sanofi. Non, parce que c'est pas une personne. Mouvement qui a débuté le 14 novembre dernier à l'appel d'un des quatre syndicats, d'abord CGT, suivi par la CFTC, FO et CFDT, sur un certain nombre de sites de production de la multinationale pharmaceutique en France. Alors après, il y a bataille de chiffres, hein, c'est comme avec les manifestations du nombre de grévistes, donc on va s'en passer. L'important étant de comprendre que ces grévistes demandent une augmentation de salaire en 2023 accompagnée de primes. Parce que Sanofi fait du résultat et fait du bénéfice.
Oui, pas mal.
Alors,
on peut le dire.
Ouais. Alors, je vous invite à lire. Vous le trouverez sur assez facilement sur Internet. Le communiqué du collectif médicaments Bien Commun, qui je trouve reprend bien cette affaire d'augmentation de salaire et de répartition des richesses, parce que Paul Hudson, le directeur général de Sanofi, dans un courrier aux salariés, prétend que les salaires de base annuels dans le groupe sont supérieurs à la moyenne nationale de l'industrie pharmaceutique et que donc globalement, vous l'aurez compris, ces grévistes doivent fermer leur bouche puisqu'ils sont mieux payés qu'ailleurs.
Ils font aussi plus de bénéfices, cette boîte. Donc,
alors, je pense que de toute façon, on va arrêter de comparer. Il y a suffisamment d'argent, a priori, pour pouvoir répartir correctement les richesses. Et puis, qui travaille est payé. Surtout que M. Paul Hudson, lui, comme le rappelle ce communiqué du collectif médicaments Bien Commun, c'est incontestable pour lui qui figure dans le top 5 des dirigeants du CAC 40 les mieux payés en 2021 avec près de 11 millions d'euros à lui tout seul. C'est-à-dire que lui, il n'est pas gêné d'avoir tout plein de pognon, mais les autres ne devraient pas en réclamer. Et puis, on a aussi M. Paul Hudson qui se sert de la pénurie de paracétamol pour dire « c'est votre faute à vous, les vilains grévistes ». Et on a encore une fois, comme le rappelle le collectif médicaments Bien Commun, l'idée de la prise d'otage des grévistes sur le reste de la population qui a donc empêché les gens de pouvoir se mettre du paracétamol dans le corps et donc de pouvoir se soigner. Il a expliqué.
En tout cas, essayer de moins souffrir, parce que le paracétamol, ça ne
soigne pas, mais ça permet d'atténuer les symptômes.
Des douleurs. Ouais.
Mais enlever des douleurs, en même temps, c'est aussi se soigner quelque part, d'où mon raccourci de langage. Alors, il a expliqué dans une note interne que le droit de grève consiste à cesser collectivement le travail et non volontairement à interférer ou bloquer la livraison de médicaments. Ce type de blocage par une minorité de grévistes sont tout simplement irresponsables et illicites. Ils ne seront pas toléré. Voilà, donc là aussi on a la prise d'otage, tout ça. Ce qui est bien dans ce que communiqué du collectif médicaments Bien Commun, c'est qu'on nous rappelle que la pénurie de médicaments, elle est pas récente. D'autres organisations et d'autres associations nous rappellent aussi que ça fait 30 ans qu'on a des problèmes de pénurie de médicaments en France. Alors c'est à tour de rôle aussi. Alors en ce moment on parle aussi d'antibiotiques comme l'amoxicilline. des médecins disent que c'est un antibiotique qui est trop prescrit aussi, oui, mais il y a une rupture de production de partout. Hein, ça touche pas que pour le coup le territoire français, mais le médicament bien commun nous rappelle que c'est aussi parce qu'il y a des politiques libérales et une financiarisation à outrance de la santé qui fait qu'aujourd'hui on a des pénuries. C'est parce qu'à un moment, on va arrêter de produire parce que les médicaments sont pas rentables. On va fermer des lieux. Donc je vais vous lire juste une petite partie, si vous le voulez bien, qui nous dit: ce ne sont pas les grévistes en lutte depuis le 14 novembre qui sont à l'origine de cette impossibilité pour des dizaines de milliers de patients de bénéficier de traitements adaptés. Au contraire, c'est leur force de travail qui assure la production des médicaments et vaccins et permet à Sanofi d'atteindre 38 milliards de chiffre d'affaires en 2021 et de distribuer 4 milliards d'euros de dividendes à ses actionnaires. Ce qui autorise cette entreprise à prévoir une hausse de 16% d'augmentation des dividendes à destination des actionnaires en 2022. Dans le même temps, les salariés ont à subir les décisions prises pour satisfaire l'insatiable appétit des actionnaires de délocalisation de production, de fermeture de sites, de réduction des effectifs. Ils sont malmenés de restructuration en restructuration, tout en étant incités à donner le meilleur d'eux-mêmes pour que l'entreprise reste dans le top 10 des multinationales de la pharmacie. En échange de quoi, les salariés subiraient une baisse effective de leurs revenus, alors que les actionnaires verraient leurs dividendes continuer à croître bien au-delà de l'inflation. C'est assez juste, comme toujours chez Sanofi. Depuis plusieurs années, hein, c'est pas nouveau, on préfère donner à court terme de l'argent tout de suite aux actionnaires plutôt que de prévoir à long terme une survie correcte de l'entreprise et donc de rémunérer à juste titre les salariés.
Alors, on va rester dans la santé et parler un peu vaccination. La campagne du Covid patine un peu sur la vaccination, mais le gouvernement n'est pas capable de communiquer correctement, de toute façon, sur la santé en général et encore moins sur la vaccination. Il y a quand même quelques bonnes nouvelles qui sont sorties cette semaine. La première bonne nouvelle qui fait suite à d'autres, hein, c'est sur Ebola, donc virus qui a été découvert dans les années 70, qui cause une maladie très très grave, avec beaucoup de morts à la clé. Il y a une grosse étude qui s'appelait Prévac, enfin un gros essai qui testait 3 schémas vaccinaux depuis 5 ans, qui vient d'être analysé entre autres par l'INSERM. Ils sont assez contents des résultats, de la tolérance du vaccin et surtout de l'efficacité, puisqu'ils ont 12 mois après une forte présence d'anticorps, notamment chez les enfants qui ont une réponse immunitaire bien plus forte que les adultes. Donc c'est une bonne nouvelle. Alors c'est pas la première fois qu'il y a un vaccin sur Ebola qui est utilisé, mais là c'est une étude plus sérieuse, parce que pour arrêter les épidémies qu'ils ont eues, ils ont vacciné déjà un peu dans des situations un peu exceptionnelles. Donc voilà, là, c'est une bonne nouvelle, le vaccin contre Ebola fonctionne on savait, il y a un risque énorme quand même sur Ebola qu'un jour cette maladie se répande, parce qu'elle est très mortelle, hein. Il y a des fois c'est plus de 50% des gens qui meurent, donc ça, c'est vraiment très intéressant d'avoir un vaccin, d'abord pour protéger les populations locales, et ensuite en protégeant les populations locales, on empêche le virus d'exister, de vivre et de se répandre. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle. Et sur la vaccination, une autre bonne nouvelle liée au vaccin ARN messager. Alors si vous avez suivi un peu la science, il y a une vingtaine d'années, peut-être un peu plus, il y avait des essais de vaccins ARN contre les cancers. En fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient des gens qui avaient une tumeur, donc des cellules cancéreuses, ils cherchaient l'ADN d'une partie de ces cellules cancéreuses, ils créaient un vaccin qui ciblait ces cellules cancéreuses. Alors ça coûtait des millions, parce que chaque tumeur dépend de la personne, et donc le vaccin, il était unique. Et ça coûtait très très cher à l'époque de fabriquer un vaccin unique ARN, et les essais avaient donné des résultats qui étaient pas mal, mais qui n'étaient pas meilleurs que les traitements habituels, chimiothérapie, etc. Donc ça avait été un peu abandonné. Et là, il y a le retour de ces vaccins ARN contre le cancer. Il y a plusieurs cas. Alors, il y a le cas qui a été révélé là très récemment dans la semaine sur le mélanome, notamment les mélanomes qui sont très mortels, hein, donc ce fameux cancer de la peau. Et là, donc, il y a des nouvelles séries de vaccins. Donc là, c'est Moderna et Merck qui présentent, avec une efficacité qui a l'air plutôt pas mal, hein, 44% de personnes qui s'en sortent mieux, voire qui s'en sortent tout court, par rapport aux autres. Donc on gagne 44% de gens qui vont survivre à leur mélanome. Donc c'est plutôt positif. Alors c'est qu'une préétude, c'est pas encore, les chiffres sont pas publiés, donc validés. fait par les pairs, etc. Mais ça montre que sur les vaccins ARN, on a des potentiels importants. Hein. On sait que d'autres, bah, on pense à BioNTech, hein, la biotech allemande, donc fondée là par deux immigrés turcs, qui a fait un des vaccins contre le Covid, travaille aussi là-dessus, sur pas mal de virus. Et surtout de cancer, de maladies auto-immunes, et notamment un vaccin universel contre la grippe aussi, qui sera en cours d'élaboration. Donc voilà, il y a un potentiel important sur la vaccination. Puis alors, pour refaire un point sur la vaccination, parce que j'ai lu une étude qui vient du Québec, qui résume un peu 4-5 études, donc de chercheurs polonais, brésiliens, français, sur le mouvement anti-vax, et d'où il est issu et comment il fonctionne. Alors, il y a notamment des chercheurs polonais qui ont travaillé l'année dernière sur une étude couvrant trois vaccins, le papillomavirus humain, la rougeole et la grippe, et les groupes anti-vax qui s'y opposent, avec les arguments. Alors, ils ont classé ça en trois groupes d'arguments. Le premier argument, les vaccins sont dangereux. Alors, dans cette catégorie, on dit toujours, ils disent que c'est le vaccin qui entraîne des ingrédients toxiques. Ils ont toujours le même argument. L'industrie pharmaceutique cache les données. C'est toujours un peu la même chose. Dans une revue des arguments employés par ces activistes américains, là aux États-Unis d'Amérique, opposés à la vaccination, un autre travail de Tara Schmidt, qui est épidémiologiste, elle a fait une grosse étude à partir de 2017. Elle s'est rendue compte que un des arguments aussi utilisés par les anti-vax, c'était de dire le système immunitaire des enfants et immatures, donc ça les rend plus vulnérables au danger des vaccins. Et on vient de le voir avec l'étude précédente, mais en fait c'est souvent l'inverse. Les vaccins sont plus efficaces quand ils sont donnés aux enfants. Ils ont peut-être un meilleur système immunitaire que nous. Voilà. Et donc voilà. Deuxième argument, il existe des traitements alternatifs ou naturels plus efficaces. Alors ça, les chercheurs polonais notamment ont bien montré que c'était très présent dans quel que soit le vaccin et la technologie du vaccin. Hein. Ils ont toujours le même argument. Il existe des substances naturelles qui vous aident, qui boostent l'immunité. Et comme c'est naturel, c'est pas dangereux. Alors déjà dire qu'un truc naturel et pas dangereux, c'est totalement faux. Il y a plein de substances naturelles qui sont dangereuses. Et en fait, surtout, ça marche pas scientifiquement. Alors, elle explique, cette dame, Tara Smith, qu'en fait, et là, les chercheurs polonais, pour ces trois vaccins-là, que l'immunité naturelle, on l'a, heureusement, et que les vaccins permettent de la booster, justement, de l'entraîner. Voilà. Et ils ont étudié un peu ces militants anti-vax américains. Ils se sont rendus compte qu'il y en a qui font exprès d'exposer leurs enfants à des virus pour leur faire travailler le système immunitaire. Alors les gamins sont malades et des fois ils en perdent, mais c'est pas grave, c'est la sélection naturelle, il paraît que c'est normal. Donc voilà, et le troisième argument qui est souvent donné par les anti-vax, il faut pas faire confiance aux scientifiques, ni au gouvernement, ni aux médias. Alors c'est intéressant le rejet, alors du coup c'est pour ça que ces mouvements sont très proches de l'extrême droite, parce que le rejet des médias et le rejet de la science, c'est typique de l'extrême droite. C'est marrant parce qu'ils rejettent la science quand ça les arrange, mais quand il faut utiliser un smartphone, ils sont bien contents que la science ait fonctionné. Hein. Bon, voilà. Donc les études, alors je détaille pas tout ce qu'ont fait les chercheurs polonais, qu'ont fait Tara Smith, qu'ont fait les chercheurs français, mais grosso modo on a toujours la même démarche. Alors cette démarche, elle est pas récente. Quand il y a eu les vaccins au 19e siècle contre la variole, il y avait déjà ce genre d'argumentaire. Il y avait des gens qui disaient mais les produits sont dangereux. Alors autrefois les antivax accusaient le thimérosal qui était contenu dans des vaccins de causer l'autisme. Quand cette hypothèse a été invalidée, ils sont jetés sur l'aluminium. Et ils passent d'une substance à l'autre en disant ça c'est dangereux, ça c'est dangereux, ça c'est dangereux, alors que on vit dans un environnement qui est dangereux pour différentes raisons, parce qu'on a des particules fines, voilà, mais ça les choque moins que un truc microdosé dans un vaccin. Donc voilà, et alors toutes les études sont intéressantes parce que le but, c'est de finalement, dans ces mouvements, c'est de combattre la science en général, pas que le vaccin, et c'est ce qui est expliqué un peu par toutes ces études, notamment les chercheurs français là qui avait montré, et notamment aussi, alors j'ai plus la nationalité ici, les chercheurs français, qui montraient qu'en fait, les antivax ont une nouvelle manière de faire, c'est toujours les mêmes arguments, mais une nouvelle manière de faire, et notamment il y en a qui disent, pour pas être qualifié d'antivax parce que c'est mal vu, ils critiquent que certains vaccins. en disant ceux-là, ils sont pas sécuritaires, donc c'est mal. Notamment les vaccins ARN, par exemple, avec les arguments faux, c'est récent, etc. J'en ai parlé, ça a plus de 20, presque 25 ans, les premiers essais de vaccins ARN. Donc voilà. Et c'est intéressant. Alors c'est ce Québécois là qui a un peu agrégé comme ça des études, montre bien un peu le développement du discours anti-scientifique qui date donc il y a à peu près 150 ans et ça nous fait penser à Steiner par exemple. L'anthroposophie est une dérive sectaire qu'on connaît bien et qui s'est basée sur ce rejet de la science. Donc on a tous ces mouvements là qui sont bien mis en avant par ces études et c'est intéressant, on apprend plein de choses, des trucs que je connaissais même pas. Le dénialisme, c'est le déni du consensus scientifique, c'est un des rejets de la science. Alors ça marche très bien pour les antivax et ça marche très bien pour les climato-sceptiques aussi, voilà. Alors la question maintenant c'est qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il faut faire. Une des solutions pourrait être d'arrêter d'enseigner la science que comme une matière technique qui sert à l'industrie, mais aussi d'enseigner de la culture scientifique, mais ça, aucun des gouvernements depuis 30 ans n'a eu cette idée-là, ici comme ailleurs.
Alors, je vais terminer par un sujet qui n'était pas prévu. On va revenir à l'international. Je vais parler du Qatargate, puisque nous avons ouvert avec la Coupe du Monde dès la honte. Moi, je fais partie des gens qui sommes un groupe très minime, mais qui souhaitons que l'équipe de France de football gagne cette Coupe du Monde. Comme ça, elle sera bien entachée. Ouais, et qu'on pourra leur rappeler à chaque fois qu'on ira leur causer. Enfin, je leur parle pas tous les jours, moi, personnellement. Donc, je termine avec ce Qatar qui est donc accusé d'avoir corrompu quelques députés européens.
Et pas mal italiens, d'ailleurs.
Alors, on a grec, italien, belge et tout, en fait. Ouais. Alors, on a beaucoup parlé du pognon, parce que ça, c'était visible, en plus. Hein, on a eu des photos.
Une valise de 600 000 euros.
Ouais. Des billets, tout ça. Alors, il faut savoir que c'est vendredi dernier, donc il y a eu des révélations du quotidien belge Le Soir et de l'hebdomadaire Knack. Après ces révélations, le parquet fédéral belge a confirmé que l'Office central pour la répression de la corruption enquêtait depuis la mi-juillet sur des faits présumés d'organisation criminelle et de corruption de blanchiment, dont plus d'un million d'euros saisis en cash, l'incarcération de 4 personnes. Et moi, c'est pas tant l'argent finalement qui m'a marqué, parce que évidemment, on a Eva Kelly qui savait pas qu'elle avait des sous chez elle, comme ça. Elle avait des sacs de bouillets, mais elle savait pas. Son père, lui, s'est fait attraper en flagrant délit à la sortie de l'hôtel, d'un hôtel, je dirais pas la marque, en possession d'une valise de billets à la main. Donc là, ben, flagrant délit, hein, voilà, ça a fait lever son minuté parlementaire donc à Eva Kelly, puisqu'il y avait tout plein d'argent chez elle, mais elle sait pas pourquoi. Hein, c'est arrivé, voilà. Dans la valise du père, il y avait 600 000 euros, chez elle, il y avait 150 000 balles quand même, hein, voilà. Donc beaucoup d'argent, mais moi ce qui m'a intéressé, c'est quand même qu'on a par exemple Antonio Panzeri, ancien député sociodémocrate de 2004 à 2019. Il est président de l'ONG Fight Impunity qui, je cite, lutte contre l'impunité en cas de violation grave des droits de l'homme et de crimes contre l'humanité. Mais on a aussi par exemple Francesco Giorgi, donc ils sont inculpés hein, tous hein, et toutes hein, pour corruption, blanchiment et organisation criminelle. Et lui il est écroué, Francesco Giorgi. Donc lui il siégeait à la sous-commission des droits de l'homme. Voilà. Et puis par exemple Nicolo Figa Talamanca, secrétaire général de No Peace Without Justice.
Ouais.
Donc il y a des gens quand même engagés d'un certain côté. On a aussi Luca Visentini, hein. Qui est secrétaire général de la Fédération syndicale internationale.
Ouais, c'est moche.
C'est moche. C'est d'autant plus moche que non seulement ce sont des élus qui ont été corrompus, mais en plus des élus qui avaient l'air d'avoir pris des engagements. Donc on peut douter déjà de ces engagements, mais ça veut dire que ces gens, on les a retournés comme des petites crêpes avec le pognon, hein, finalement. Puisque par exemple, on a Marc Tarabella, un Belge, qui avait dénoncé les conditions de travail, qui critiquait l'attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, et puis qui a fait volte-face. Ouais. D'un coup, il s'est mis à dire que c'était du Qatar bashing. Donc comme quoi, on peut changer d'avis avec des belles valises remplies de billets. Voilà, moi je pense que c'est ça aussi l'important hein, de cette affaire, c'est qu'évidemment il y a eu du pognon et de la corruption, mais c'est aussi ce que représentaient ces gens et où est-ce qu'ils étaient installés et qu'est-ce qu'ils faisaient aussi de leur vie politique. C'est une sacrée claque quand même, là pour les eurodéputés quand même. Voilà.
Bah, ça va être la fin de ce Canu Info. Ouais. Il y a quelques manifs ce week-end, oui. Notamment une contre les lois sécuritaires et répressives de Darmanin, si
à
j'ai bien tout compris.
Donc c'est ce que je disais. Ouais.
Place Bellecour.
Exactement.
Et il y en a une autre au Terreau, je ne sais plus quel est le sujet, mais voilà.
Et on voulait vous passer une petite chanson, et puis bon,
la
on n'a pas eu le temps
peut-être.
De le faire, mais sinon, vous allez l'écouter. Ça s'appelle Mourir pour Mbappé, nous, ça nous a fait beaucoup rire. Nous enfin, ne sommes pas seuls à critiquer cette Coupe du Monde, et bien heureusement.
Et eux, ils l'ont fait avec humour, c'est plutôt bien fait.
Oui, c'est joli, bien fait.
Ouais. Ouais. Voilà, on va vous laisser en compagnie de La Petite Cuillère,
oui.
L'émission contre les prisons.
Pour les prisonniers et les prisonnières.
Voilà, exactement. Et on se retrouve donc la semaine prochaine.
Tout à fait.
19h, 20h, c'est ça?
Ouais.
Tous les jeudis et demain, peut-être. Normalement, un autre Canu Info à 19h, puisque tous les voilà. Jours de la semaine, il y a une équipe différente dans ce Canu Info.
Voilà. On vous souhaite une bien bonne soirée. On vous rappelle qu'il y a des blogs sur lesquels vous pouvez réécouter les émissions de la plus rebelle des radios. C'est Radio Canu, le 102.2. Bonne soirée à tous et à toutes. Ciao.